Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est un mot qui revient de plus en plus ces derniers temps, le mot glocal, un mélange des mots global et local qui dit l'intention actuelle d'essayer de tenir davantage compte de la dimension globale du système économique, notamment dans nos considérations locales. Mettre de l'universel dans le local et du local dans l'universel pour plus de justice, c'est en partie le combat du CCFD Terre Solidaire depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Faire en sorte qu'ici, chez nous, nous puissions travailler au développement humain des pays dits du Sud. Faire en sorte qu'ici, chez nous, nous puissions travailler à l'établissement de règles internationales plus justes. Allez, le CCFD Terre Solidaire, une sorte de Zorro à rejoindre près de chez soi. CCFD, Terre Solidaire, 60 ans de solidarité, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Émission en forme de coup de chapeau pour cette grande ONG. Autour du plateau, pour nous en parler, Dominique Rouillère, vous êtes secrétaire national du CCFD Terre Solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous entend de très très loin, donc là, il va falloir...
Bonjour.
Oui, voilà, enlevez bien le micro, enfin comment dire, le pas de haut-parleur, parlez bien près du micro. Pierre Chastrus, vous êtes membre du CCFD Terre Solidaire 31, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Clotilde Arribet, vous êtes membre du groupe Jeunes Adultes Régional du CCFD Terre Solidaire, bonjour.
Bonjour.
Le CCFD donc fête cette année ses 60 ans, j'ai dit plus d'un demi-siècle mais ça fait plus que ça. On va prendre le temps de découvrir cette grande et belle ONG qui a donc maintenant une histoire et une grande histoire. On va essayer de revenir un peu aux racines, au fondement de cette ONG, voir quelques-uns de ses combats entendre pourquoi il faut continuer à s'y donner et à s'y engager. Alors on va commencer avec vous. Dominique Rouillère, ça vous a fait sourire quand j'ai dit une sorte de Zorro à portée de main près de chez soi. Vous êtes là pour Zorro ou d'autres, hein. Vous êtes là en fait pour travailler à créer ou creuser un sillon de justice localement et universellement.
Oui, enfin, je voulais dire par là que c'est à la fois sympathique et en même temps un peu présomptueux. C'est vrai que on fait beaucoup de choses, mais de là à être Zorro, je ne sais pas. Bon, je m'appelle Dominique Rouillet, pour vous préciser les choses. C'est une longue histoire, le CCFD, mais c'est vrai qu'il a pris de plus en plus d'importance, qu'aujourd'hui, c'est plusieurs 600 projets soutenus dans le monde et dans presque tous les pays du monde, mais c'est aussi un grand réseau de bénévoles en France, autour de 15 000, qui, ce ne sont pas des euros, ce sont des gens qui essayent de mobiliser et de faire sentir à la population, et en particulier, puisque c'est notre mission aux catholiques, que la solidarité internationale est incontournable dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Alors, on va prendre le temps donc de voir ça avec vous. Je voulais qu'on revienne un peu aux origines. 1961, donc cette ONG est créée. J'ai lu, alors vous allez me dire si je me suis trompé ou pas, qu'elle avait été créée donc à la demande de la Conférence des évêques de France. Et ce, à l'époque, donc il faut redire, hein, comité CCFD, ça veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement. Quel était le contexte qui a présidé à sa création ?
En fait, en 1960, la FAO, qui est l'organisme onusien qui s'occupe de l'alimentation, a lancé un appel en disant que on allait vers une famine absolument dramatique. Et le pape de l'époque, qui était le pape Jean XXIII, qui a lancé le Concile Vatican II, a lancé un appel particulier aux catholiques en leur disant c'est une de vos responsabilités et vous ne pouvez pas vous dérober. Et c'est à ce moment-là que l'Église de France, à l'époque c'était pas la Conférence des évêques de France parce que ça a été créé plus tard, a essayé de réfléchir à comment elle pouvait mobiliser les catholiques en France. Et plutôt que de créer un organisme particulier, elle a finalement décidé de rassembler ensemble tous les mouvements qui avaient déjà une pratique de solidarité internationale. Et c'est comme ça que 15 mouvements se sont réunis dans ce qui s'appelait alors le Comité contre la faim, pour faire une campagne qui, à l'origine, devait être une campagne d'une année. Et puis, très, très vite, on s'est aperçu que, bon, on ne traitait pas la faim en une année et que si on ne travaillait pas beaucoup plus en profondeur, on ne pourrait pas faire avancer les choses de façon sérieuse. Donc, petit à petit, on s'est constitué en mouvement, mais toujours un mouvement collégial. Au départ, il y avait 15 mouvements, maintenant il y en a 30.
Alors, on y reviendra justement à la collégialité du mouvement. On peut dire, vous avez commencé à le citer, donc aujourd'hui il y a plus de 20 000 projets qui ont été soutenus à travers le monde. Chaque année, donc, c'est près de 500. Vous êtes présent dans une soixantaine de pays. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un projet aujourd'hui que le CCFD Terre Solidaire soutient ou qui soutient depuis des années pour qu'on touche du doigt à l'autre bout du monde qui ça impacte et quelles grandes et belles histoires ça permet?
Alors, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, une des lignes fortes du CCFD qui a pour travailler contre la faim et contre les injustices, c'est s'engager très fortement pour l'agroécologie paysanne et solidaire, de façon à ce que les paysans puissent se nourrir eux-mêmes. Et dans ce cadre, le CCFD soutient beaucoup de projets et a fait quelque chose de particulièrement fort et original, c'est de mettre en lien les 25 projets sur tous les continents qui travaillent à l'agroécologie et de les faire travailler ensemble, échanger et se soutenir les uns les autres. Et ce vaste projet qui s'appelle le TAPSA est soutenu par l'Agence française de développement et c'est un budget de 12 millions d'euros.
Alors, en quelques mots, l'agroécologie, et puis si vous deviez mettre encore plus un coup de zoom donc sur un lieu d'agroécologie, qu'est-ce que ça donne sur place? Qui sont ces personnes qui travaillent dans un pays?
Je vais vous donner un exemple auquel vous ne penseriez même pas, parce que beaucoup d'auditeurs ne savent pas forcément où c'est. C'est le Timor oriental, qui est une petite île du Pacifique, qui a eu une indépendance récente et qui a décidé de miser son agriculture de manière agroécologique. Et on soutient une association là-bas qui, non seulement c'est de l'agroécologique, mais a mis en place toute une éducation pour les jeunes, avec des jardins partagés, avec une information et une formation dans les écoles. Et c'est ce type de choses qu'on soutient.
Agroécologie, en deux mots, c'est quoi, Dominique Rouillet?
Mais c'est une agriculture ne fait pas appel à des intrants chimiques, qui utilise les connaissances locales et qui développe des productions qui sont directement utilisées par les paysans et qui sont leur propre production et non bien sûr qu'il y aura aussi une nécessité de certaines importations, mais qui travaillent pour se nourrir eux-mêmes.
Alors le CCFD, donc c'est 60 ans d'histoire, vous l'avez dit, c'est un mouvement donc, qui a une particularité, qui a une gouvernance collégiale. Vous pouvez peut-être en dire un mot. Au sein du conseil d'administration, il y a donc un certain nombre d'organisations, d'autres organisations chrétiennes, mais pas que, si je ne me trompe pas, qui sont représentées, c'est ça, 29 mouvements pardon, et services d'église, c'est ça?
30 je crois, mais peu importe, en fait au départ on était 30 mouvements, donc au conseil d'administration, des représentants de ces mouvements de façon tout à fait classique. Mais il se trouve que le CCFD, de plus en plus, a intéressé des gens qui ne faisaient pas partie de ces mouvements-là et qui sont devenus membres également. Et donc, du coup, on a mis en place, travaillé à de nouveaux statuts, un nouveau fonctionnement où, au conseil d'administration, il y a à la fois une représentation des mouvements et une représentation de ces membres qui sont dans toute la France, qui ne sont pas membres des mouvements qu'on appelle le réseau CCFD.
Donc en tout cas, on peut citer certains de ces autres mouvements. Donc il y a les actions catholiques des milieux indépendants, ouvrières, chrétiens en monde rural, jeunesse indépendante chrétienne, les œuvres pontificales missionnaires, Pax Christi, Société Saint-Vincent de Paul, etc. Alors il y a trois grandes missions du CCFD. En fait, c'est comme trois sillons que vous essayez de creuser en même temps. Travailler au développement humain des pays dits en voie de développement, sensibiliser l'opinion publique sur le fameux tout est lié, qui est cher à Laudato Si, mais vous auriez pu signer de votre main cette expression, et puis faire des actions de lobbying. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces trois piliers ou nous représenter?
Voilà, alors c'est plutôt trois piliers que trois missions, parce qu'on a une mission centrale, c'est lutter contre toutes les injustices, et en particulier la faim, et en particulier dans les pays du Sud. Et pour ça, on a trois façons de le faire. Une première, qu'on appelle le partenariat, qui est de travailler avec des associations locales dans les pays concernés, en les soutenant financièrement, mais aussi en les accompagnant dans leurs projets, en leur proposant de la formation et en travaillant avec eux leur stratégie. Et ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est effectivement le tout est lié, c'est-à-dire que on sait très bien, et ça, ce n'est, même si Laudato Si l'a très bien dit et qu'on ne pouvait que signer des deux mains, ça date beaucoup plus longtemps, puisque Don Helder Camara nous disait déjà qu'il fallait qu'on s'occupe d'ici pour que ça change là-bas. Et donc, c'est de travailler ici à ce que les gens comprennent nous n'avons qu'une seule terre et que si on ne change pas globalement l'ensemble de notre façon de fonctionner, on ne pourra pas non plus changer suffisamment bien la situation des pays du Sud. Et notre troisième pilier, c'est ce qu'on n'appelle pas, nous, du lobbying, ce qu'on appelle de plaidoyer, qui est de travailler auprès des décideurs français, européens et internationaux pour faire changer un certain nombre de lois qui produisent des situations injustes.
Avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes engagé au CCFD Terres Solidaires, mais qu'aujourd'hui il y a comme un moment favorable, c'est-à-dire là où vous aviez l'impression parfois peut-être de prêcher un peu dans le désert, aujourd'hui il y aurait comme un alignement des astres et l'opinion publique serait plus mûre pour entendre, on va dire, ce cri d'une certaine manière que vous poussez depuis quelques années en France?
Alors il y a des aspects favorables et des aspects très défavorables, en particulier dans la pandémie qu'on traverse à l'heure actuelle. Il y a un moment favorable au sens où il y a une grande prise de conscience de l'urgence écologique et donc de la nécessité de transformer complètement notre façon de produire, de consommer et de vivre. Mais il y a un moment très défavorable qui est que la pandémie aujourd'hui a tendance à beaucoup plus valoriser la solidarité au niveau national que la solidarité internationale.
On va y revenir, on va faire une première pause et puis on va voir quelques-uns des grands combats qu'a mené le CCFD avec d'autres et combats qui ont commencé d'être remportés. C'est l'histoire des biens mal acquis, biens entre autres de potentats africains et on trouve vous avez travaillé, vous le CCFD entre autres, à faire en sorte que soient restituées aux peuples qui ont été spoliés les sommes qui ont été détournées et puis une loi aussi récente sur loi relative au devoir de vigilance sur, invitant les grandes entreprises à une vraie traçabilité, on va dire, éthique et environnementale de leur activité.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le CCFD Terre Solidaire, 60 ans de solidarité internationale, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous, Dominique Rouillet, secrétaire national du CCFD Terre Solidaire, Pierre Chastrus, membre du CCFD Terre Solidaire 31, et Clotilde Haribet, qui est membre du groupe Jeunes Adultes Régional de ce même CCFD. Dominique Rouillet, je me disais quand même qu'il fallait 60 ans d'histoire, ça en fait des combats menés. J'en ai cité quelques-uns en teasing de l'émission de ce matin. Alors il ne s'agit pas forcément de faire une grande page d'histoire, mais de montrer qu'en fait le CCFD a accompagné, on va dire, a accompagné l'histoire et certaines de ces grandes crises. Je disais en 1973 par exemple, vous avez soutenu le mouvement des sans-terre au Brésil. En 1980, vous envoyez des colis alimentaires aux résistants polonais face au régime communiste. Est-ce que vous pouvez nous citer comme ça quelques heures de gloire du CCFD qui disent cet engagement au long cours?
Eh ben non, pas plus que ça, parce que c'est pas notre fonctionnement habituel. Il est vrai que on peut avoir un moment de soutien d'urgence et bon, par exemple, on l'a fait récemment pour le Liban, quand il y a un tsunami, quand il y a le tremblement de terre à Haïti, par exemple, on a un fonds spécial pour faire des actions d'urgence. Mais nous, notre travail, c'est dans la durée. Et quand je dis dans la durée, c'est vraiment assez long parce qu'on travaille avec des associations pendant 10, 15...
Alors, quelques-unes des grandes campagnes dans ces cas-là dont vous êtes particulièrement fier?
Par contre, on a fait des grandes campagnes de plaidoyer. Et on va en parler tout de suite après. On a travaillé à un contrôle des grandes multinationales sur leur façon dont elles traitent dont elles fonctionnent dans leurs filiales. On s'est battu aussi, et on va en parler tout à l'heure, contre les biens mal acquis d'un certain nombre de dirigeants africains. Et on a fait un certain nombre de campagnes. On a été grande cause nationale en 1993, et donc on a obtenu un statut consultatif aux Nations Unies. Mais voilà, c'est campagne publique.
On va rentrer dans le concret dans ces cas-là. Je vous propose, on va commencer avec Pierre Chastrus. Pierre Chastrus, il y a donc une campagne à laquelle donc a participé le CCFD Terre Solidaire. C'est donc une campagne qui a permis donc la création d'une loi en France, première au monde, si j'ai bien compris, loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Ça fait un peu long. Donc c'était en 2017. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la nature du combat et pourquoi ça a été une grande victoire?
Alors, ça a été une grande victoire parce que il y a eu un travail à la fois sur le plan parlementaire, qui a été très long, qui a duré 5 ans. Il y a eu également une campagne d'opinion là-dessus, avec des pétitions pour appuyer la demande. Et cela a résonné avec un scandale qui est arrivé à cette époque-là, donc en 2013, qui a été l'incendie du Rana Plaza, qui était un immeuble d'usine au Bangladesh, où il y a eu 1100 ouvrières qui ont perdu la vie, et alors qu'elles travaillaient pour le compte de grandes marques qui étaient dans nos pays.
Voilà, on dit qu'après, on a retrouvé dans les décombres certaines chaussures ou t-shirts de grandes marques qu'on ne citera pas.
Voilà, il y avait les preuves, effectivement, des étiquettes. Hein. Et ces marques ont refusé de reconnaître leurs responsabilités, pour la plupart. Hein. Ou elles ont accepté de façon volontaire de verser un minime pécule. Hein. Et tout cela a scandalisé parce que, donc, en fait, il y a une responsabilité quand on passe une commande, de voir dans quelles conditions cette commande va être exécutée.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi relative au devoir de vigilance, donc des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, de 2017 quel est le périmètre de cette loi, donc première mondiale?
Alors, le périmètre de cette loi concerne les entreprises les plus importantes en France, ayant leur siège en France, ayant des milliers de...
Au moins 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde.
Voilà, donc ça c'est limité comme périmètre, hein, mais cela les oblige à faire un travail pour prévenir justement les risques qu'elles engendrent par leur activité. Donc, et ceci tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire y compris chez leurs sous-traitants, alors que juridiquement, auparavant, les entreprises disaient « non, nous sommes des entités juridiques différentes ». C'est aux sous-traitants d'assumer sa responsabilité.
Donc celle qu'elles contrôlent directement ou indirectement ?
Celles auxquelles elles passent des commandes.
Des commandes. Hein,
donc ce sont elles, et ceci s'est développé évidemment avec la mondialisation, parce qu'auparavant, il y avait peu de filiales aux quatre coins du monde. Hein. Mais effectivement, depuis une vingtaine d'années, c'est le mode de fonctionnement de l'économie. Et donc, on ne peut pas, on le disait tout à l'heure, se limiter simplement à une approche dans un pays en ignorant effectivement ce que l'on provoque dans les autres pays.
Alors on peut citer aussi le domaine d'application, hein, donc sont concernées les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, mais aussi la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement.
Tout à fait.
Un spectre donc.
Tout à fait, et il faut en être bien conscient, parce que au Bangladesh, il s'agissait d'usines d'habillement, et effectivement, il faut savoir que la fabrication donc de l'habillement entraîne des pollutions qui peuvent être très très graves, hein. Et évidemment, il y a des entreprises pour qui ça coûte moins cher de balancer ça dans la nature.
Le jean n'est pas toujours écologiquement responsable.
Absolument.
Ouais. Alors cette loi a été mise en place. On a un tout petit peu de recul maintenant, 2017. Est-ce qu'on a fait quelques premiers bilans ? Est-ce que le CCFD l'a fait avec d'autres ONG ? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'application de cette loi ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est peu mieux faire, parce qu'effectivement, d'abord, vous l'avez compris tout à l'heure en l'annonçant, il y a eu donc de fortes réticences pour ne pas être inclus dans le périmètre d'application de cette loi. C'est-à-dire que il y a eu des pressions pour faire remonter le seuil d'application de la loi, mais même donc dans ce cadre-là, il y a eu un certain nombre d'entreprises, et pas des moins importantes, qui n'ont pas appliqué la première année la loi. Ce qui n'est pas normal, parce qu'effectivement, elles engendrent comme cela donc des risques, hein, et en fait, elles ne mettent pas en pratique leur conscience professionnelle, puisque l'objectif de chacun n'est pas d'entraîner des dégâts chez les autres. Hein. C'est donc un travail d'éducation qui doit continuer, et il faudrait également qu'il y ait un travail de sanctions derrière. Alors actuellement...
Justement, j'allais venir, donc on peut dire que les entreprises aussi donc sont obligées normalement légalement de publier un rapport annuel, qu'il y a eu un rapport conjointement publié par le CCFD, Terre Solidaire et d'autres ONG, Amnesty International, les Amis de la Terre ou Collectif Éthique sur l'étiquette, etc., qui ont justement eu comme titre les entreprises doivent mieux faire, c'est presque peu mieux faire. À quoi peut être... est-ce que la responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence que prévoit la loi, Pierre Chastrus ?
Alors, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est compliqué, c'est-à-dire que le CCFD et les autres ONG avaient demandé qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il fallait que l'entreprise démontre qu'elle n'était pas responsable des dégâts en question. Et là, donc, malheureusement, la loi donc, n'a pas retenu ceci. Par contre, l'entreprise doit montrer qu'elle a pris les précautions nécessaires, raisonnables pour... voilà. Et actuellement, donc, je crois qu'il y a plusieurs entreprises. Je ne serai pas surpris qu'il y ait Total, notamment parmi elles, hein, qui font l'objet de poursuites judiciaires. Hein, parce qu'effectivement, il est possible de demander une indemnité aux entreprises et surtout de les désigner comme coupables au niveau de l'opinion pour les inviter à changer.
Dominique Rouillet, j'ai cru comprendre donc, que c'était, la France avait été pionnière en la matière, que depuis donc, d'autres pays commencent à lui emboîter le pas, en l'occurrence la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne. Je ne sais pas si ça a été légiféré, mais en tout cas, ça serait en cours. Et donc, le CCFD Terre Solidaire travaille à porter ça maintenant au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, d'abord, le CCFD travaille effectivement à ce que ça devienne une loi qui a accepté par l'ensemble des pays européens. Et un bon signe vient de nous être envoyé ces jours-ci, puisque le Parlement européen a voté le fait que cette loi devienne une loi européenne. D'autre part, avec nos plaidoyeurs, on travaille aussi à ce que ça devienne carrément un traité onusien.
Quand vous dites cette décision du Parlement européen, elle est récente, c'est ça? Elle date de quelques jours?
Elle est de ces jours derniers, oui.
D'accord. Du 11 mars.
11 mars.
Voilà.
C'est donc, alors, si vous deviez juste mettre ça en perspective, Dominique Rouillet, quand on dit que c'est à mettre à l'actif du CCFD, ça fait partie des grandes victoires. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans le fond?
Eh bien, parce que c'est le CCFD, c'est aussi une de ces lignes d'action, et que c'est vraiment la conviction que on ne peut pas seulement soutenir des initiatives locales si on veut vraiment changer le monde. Il faut aussi faire changer le système économique et mondial. Et c'est pour ça que ça fait partie des éléments qui permettent de faire avancer plus de justice et donc plus de aussi plus de façons de considérer les pays du Sud.
Pierre Chastrus et Dominique Rouillet, je vous vois pas, ça rend la conversation parfois difficile, mais surtout, tenez les téléphones à la bonne distance et à la même, qu'on vous entende pas soit de loin, soit tout d'un coup, ça nous crie dans les oreilles. Pierre Chastrus.
Oui, je voulais préciser justement qu'il y a une possibilité d'action là pour chacun actuellement, parce qu'il y a une campagne qui s'appelle « Pay your workers »,« Payez vos travailleurs », qui est en cours. Parce qu'un certain nombre de grandes entreprises ont profité de la crise du Covid et des perturbations économiques que cela a créées pour ne pas justement verser les salaires d'un bon nombre de personnes, notamment dans les pays du Sud, et qui également se bagarrent pour avoir le droit de se syndiquer. Donc vous pouvez rejoindre cette pétition « Pay your workers ».
On la redonnera à la fin. Alors il y avait un autre point sur lequel vous souhaitiez vous arrêter. Alors je ne vous oublie pas, hein, Clotilde Arribé, hein, pardon, on fait parler un peu ceux qui ont, on va dire, quelques années de plus peut-être au compteur de l'engagement du CCFD Terre Solidaire, mais je ne vous oublie pas et on vous laissera bien la parole à la fin de cette émission pour nous expliquer les raisons de votre engagement. Voilà, ça sera la voix de la jeunesse et du futur. Vous vouliez mettre donc un coup de zoom sur une autre grande victoire à mettre entre autres à l'actif du CCFD. Donc ça s'appelle les biens mal acquis. J'avoue que j'ai découvert à cette occasion. Dominique Rouillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces biens mal acquis BMA et pourquoi le CCFD s'est engagé sur ce chemin?
Eh bien, si vous l'avez découvert, je vais vous dire que nous en avons même fait une bande dessinée qui a été publiée chez Glénat en 2018 et qui raconte cette histoire. Et c'est une histoire qui a commencé en 2007 parce que le CCFD avait publié un rapport sur un certain nombre de détournements de fonds publics par des hommes politiques du Sud, et essentiellement des chefs d'État africains. Il y avait Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Théodore Obiang, et puis il y avait aussi le président de Centrafrique, je crois, donc ce rapport a été mis en ligne et a fait, on disait pas viral à l'époque, mais ça a été le cas. Et à la suite de ça, a été entrepris une action en justice qui a mis beaucoup de temps à aboutir. Et c'est la première action en justice a donc visé Théodore Obiang. Et il a finalement été condamné en 2017. Et ce travail a été fait avec l'association Transparency International, et il a été condamné à rendre les fonds mal acquis. Et le CCFD, et c'est un peu sa gloire, a été poursuivi en diffamation par le président Obiang, son président et sa directrice du plaidoyer, et finalement ont été acquittés en appel en avril 2013.
Donc les biens mal acquis, c'est donc des détournements de fonds publics appartenant aux États par des potentats, et ce, aux quatre coins de la planète, c'est bien ça?
Oui, on considère qu'aujourd'hui, entre 100 et 180 milliards de dollars ont été volés par une trentaine de dirigeants, pas seulement en Afrique, d'ailleurs sur l'ensemble des continents. Et la Banque mondiale considère qu'il y a 20 à 40 milliards de dollars qui chaque année fuient les pays en développement du fait de la corruption.
Alors comment on s'y prend après parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les pays où sont déposés les avoirs, l'argent détourné de ces potentats qui restituent d'office, qui vont piocher dans les réserves des banques où ces biens ont été stockés pour les restituer au peuple. C'est comme ça que ça se passe?
Justement, c'est là que l'histoire continue, parce que aujourd'hui, on se bat pour que ces biens qui ont été confisqués donc puissent être restitués aux populations et non pas renvoyées dans des systèmes du pays qui ne permettraient pas que les populations en profitent directement. Donc là, il y a tout un travail qui est en route depuis cet hiver pour que on ait une loi de programmation. Dans la loi de programmation de l'aide publique au développement, il y a aussi cette demande de restituer aux populations les biens qui sont saisis quand il y a une saisie, ce qui s'est passé pour le président Obiang.
Alors on peut citer par exemple la Suisse, hein, j'en cite un ou deux, je vous donne la parole tout de suite, Pierre Chastrus. La Suisse, 658 millions de dollars ont été restitués après 17 ans de procédure aux Philippines sur les fonds Marcos. Ou alors, les États-Unis et leurs alliés en Irak ont réalisé la plus grosse restitution, saisissant en 2013 plus de 2 milliards de dollars appartenant à la famille de Saddam Hussein et qui doivent servir à la reconstruction de l'Irak. Oui, vous vouliez ajouter, Pierre Chastrus.
Oui, donc c'est effectivement très important que ces fonds dont ont été privées les populations qui souffrent dans ces pays-là, leur soient restitués et aident à leur développement. Parce que effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. Mais il faut savoir justement que s'il y a justement des corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Hein. Et effectivement, cet argent-là, il circule entre les pays, y compris notre pays et ces pays-là, dans les deux sens. Hein. Et donc, par rapport à ça, il y a nécessité justement d'une gouvernance saine, hein, et donc effectivement de mettre fin à ces pratiques.
Allez, on va faire une deuxième pause et on va enfin donner la parole à Clotilde Arribé, qui va nous raconter un petit peu les racines de son engagement au sein du CCFD Terre Solidaire et qui représente un peu l'avenir de cette ONG. Thank you.
Radio Présence à Foix 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
CCFD Terre Solidaire, 60 ans de solidarité internationale, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Dominique Rouillet, secrétaire national du CCFD Terre Solidaire, Pierre Chastrus, membre de ce même CCFD Terre Solidaire pour la Haute-Garonne, et Clotilde Arribé, membre du groupe jeune adulte régional. Clotilde Arribé, on a manqué d'élégance quand même à votre égard, c'est de ma faute. Merci d'avoir été aussi patiente. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez tout ça? Par exemple, la loi sur le devoir de vigilance, bien mal acquis. Vous vous dites quelle belle organisation. Il y a une fierté à appartenir au CCFD Terre Solidaire.
Oui. Je me dis ça et puis je me rends compte à quel point il y a une diversité des engagements et des parcours et des luttes au CCFD.
Alors on va dire la solidarité internationale, comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie? Parce qu'on peut avoir une fibre, on va dire, sensible à l'injustice, et puis quand on regarde les informations, il y a bien des circonstances dans lesquelles on peut se sentir, on va dire, touché. Mais être ici, travailler ici à faire en sorte qu'il y ait plus de justice ailleurs, c'est pas toujours, on va dire, aussi simple que ça. Vous pouvez nous dire un peu comment ça vous est venu, cette fibre de la solidarité internationale?
Ben, moi, depuis toute petite, je suis assez sensible à ça. Quand j'étais petite, je m'amusais à jouer que j'étais Daktari, un espèce de Daktari médecin en Afrique. Mais ensuite, pendant mes études supérieures, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment beaucoup réfléchir avant de mener des projets à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de risques autour du fer à la place, de la dépendance, ou aussi d'avoir un impact pas forcément bon, alors qu'on pensait bien faire. Et j'avais rencontré des ONG étudiantes qui je trouvais, en fait, réfléchissaient pas assez à ces impacts-là. Et en sortant de mon master, en fait, j'ai découvert le CCFD par un service civique. Et ce qui m'a tout de suite, en fait, beaucoup, c'est le fait que le CCFD envoyait pas d'expats pour faire des projets dans les autres pays, et que, en fait, ils soutenaient vraiment des organisations, des associations qui menaient des transformations chez eux.
Alors, y a des petites coupures. Décidément, on a des problèmes de téléphone ce matin, mais on y croit, ça va bien se finir. Donc, quand vous dites que vous êtes tourné du côté d'une ONG, en fait, et que vous aviez, en fait, des velléités de partir à l'étranger, vous pouvez revenir là-dessus. Qu'est-ce qui vous a freiné, dans le fond?
Est-ce que vous m'entendez mieux, là?
Ça va, ça ira, oui.
Ah, d'accord. Ok, c'était que le projet qui était mené par cette ONG, j'arrivais pas à comprendre qui est-ce qui sur place l'avait demandé. C'était un projet autour de plantation d'eucalyptus, et j'avais entendu que l'eucalyptus acidifiait les sols. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que ce projet-là me semblait pas assez réfléchi, en fait.
Alors, vous avez fait donc un service civique donc au sein du CCFD. Vous avez travaillé à quoi? Quelle patte vous avez amené? On peut dire que vous avez fait des études au début qui n'étaient... Vous pouvez dire peut-être les études que vous faisiez alors?
Alors, j'ai fait géographie, aménagement du territoire.
Et après, accompagnement, donc
Et du coup, dans le service civique au CCFD, on était un binôme de service civique et on accompagnait les bénévoles de la région à mettre en place, en fait, des actions pendant la campagne de Carême, où souvent des partenaires du CCFD viennent en France, des actions où il y avait vraiment un lien qui se créait entre des associations locales ici en France et ce que faisait, en fait, le partenaire à l'étranger. Par exemple, au niveau du CCFD,
Alors, on va vous rappeler, puis on va redonner la parole un petit peu à Dominique Rouillet. Dominique Rouillet, on fait une petite page de pub pour l'opération du Carême du CCFD Terre Solidaire. C'est toujours un moment important pour votre mouvement, un moment aussi où vous récoltez pas mal de fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette campagne de Carême de cette année, à l'heure de Laudato aussi, si j'ai bien compris?
Oui, tout à fait, puisque nous faisons campagne pour, avec comme thème... l'écologie intégrale, c'est-à-dire exactement le Laudato si, c'est pour le CCFD, l'ONAT aussi, c'était vraiment une manne, parce que c'était vraiment exactement dans cet esprit-là que le CCFD travaillait depuis longtemps. Et donc, pour les bénévoles du CCFD qui font campagne dans toute la France pendant le carême, c'est vraiment leur ADN. Et partout en France, il y a eu à la fois du travail sur l'ODAT aussi et des rencontres avec les partenaires. Alors, cette année, on a une difficulté qu'on a déjà eue l'année dernière, mais cette année, on a appris à s'en servir, qui est que on a habituellement, on faisait venir 25 partenaires de tous les pays du monde qui sillonnaient la France pendant 15 jours pour parler de leurs actions. On n'a pas la possibilité de le faire cette année, on a profité au maximum du système numérique et on a eu des webinaires en direct de nombreux partenaires du CCFD qui ont rassemblé beaucoup de monde, entre 100, 200, 300, 500 personnes pour un webinaire où on pouvait dialoguer avec ces partenaires et comprendre comment ils travaillaient, comprendre leurs attentes, comprendre la situation que crée la pandémie pour eux. Et donc, je crois que ça permet aux gens en France de comprendre combien on est embarqué sur la même planète et qu'on a à travailler ensemble.
Voilà.
Et puis il y a l'aboutissement de cette campagne, puisque le CCFD est essentiellement financé par ses donateurs, qui est la collecte qui a lieu le cinquième dimanche du carême et qui fournit une bonne partie des fonds du CCFD et qui est qui a été instituée et lancée par l'Église de France qui la soutient.
Voilà, c'est ce que j'avais précisé. Voilà pour cette campagne de carême, donc où vous travaillez à souligner combien cette encyclique nous aide à travailler pour plus de justice économique, sociale et climatique. Clotilde Arribet, on vous a retrouvé. Oui. Dans votre engagement au sein du CCFD Terre Solidaire, vous avez entre autres travaillé à l'occasion donc de la COP21. Pouvez nous raconter cette rencontre qui avait eu lieu à Toulouse, à laquelle vous avez contribué, une sorte de simulation de la COP21.
Oui, c'est ça. Alors, pendant le service civique, on avait à cœur de former les bénévoles du CCFD autour de Toulouse sur les questions climatiques, et c'était l'année de la COP21. Donc, on a organisé une simulation de la COP21 où les participants, il y avait une centaine de participants, étaient regroupés en fonction du continent et du pays auquel ils appartenaient. Et ils devaient, du coup, mettre en place des négociations pour aider à diminuer en fait l'effet de serre.
Alors maintenant, comme à chaque fois lors de ces témoignages, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, donc vous avez participé à d'autres initiatives du CCFD, des altercamps, où à cette occasion donc, les jeunes sont invités donc, à rencontrer des acteurs locaux qui travaillent à une transition, on va dire, écologique et responsable. Vous avez fait partie aussi des chemins de Compostelle, où vous êtes invité à marcher et à interpeller l'opinion publique sur ces sujets-là aussi. Quand vous regardez dans le rétroviseur, Clotilde Arribet, qu'est-ce que ça vous a apporté de participer au CCFD, différents services civiques, et aujourd'hui d'y militer?
Alors moi, ça m'apporte en fait de garder toujours un regard ouvert vers le monde. Et c'est très important, je trouve, parce que dans mon quotidien aujourd'hui, je suis beaucoup en fait sur le local, sur la France, sur mon métier, ma vie. Et mon engagement, il me permet en fait de garder toujours un regard vigilant sur ce qui se passe à l'étranger. Et ça m'apporte aussi beaucoup d'espoir, parce qu'on est amené quand même à rencontrer des gens qui, dans leur pays, font un travail formidable. Et ça rentre vraiment en contraste avec souvent les informations qu'on entend, etc. Et aussi, ça m'amène à côtoyer beaucoup de personnes d'autres générations que la mienne et à rencontrer des personnes qui ont 80, 90 ans et qui continuent à s'engager et à croire à un monde meilleur, c'est vrai, qui me nourrit beaucoup.
Eh ben merci beaucoup, et à cause des problèmes de connexion téléphonique, on va écourter un petit peu l'émission. Désolé auprès des auditeurs, c'est les aléas donc du distanciel. Un grand merci à vous. On peut donner à la fin de cette émission donc quelques informations pratiques. La campagne du CCFD Terre Solidaire pour ce carême, eh bien, il faut y être attentif et il faut y participer. Il y a donc cette campagne dont vous parliez tout à l'heure, Pierre Chastrus, Pay Your Workers, sur lequel on peut, qu'on peut signer. Et puis, deux prochaines dates, le 5 juin, une journée festive sur la Prairie des Fields, ça sera à Toulouse ouverte à tous, avec de multiples animations. Et le 25 septembre, un grand concert au phare de Tournefeuille avec un groupe de style folk. Mes souliers sont rouges. Pierre Chastrus, le mot
oui,
de la fin.
Deux autres dates. Donc, dès ce dimanche, le CCFD invite à une marche pour le climat avec les jeunes à partir d'Arnaud Bernard à 11h.
Et mercredi, c'est donc à Toulouse.
À Toulouse. Et mercredi prochain, le 30, donc le Cercle de Silence à 12h30, place du Capitole à Toulouse.
Alors, ça fait beaucoup de dates, mais bon, vous ferez votre marché à l'intérieur de tout ça. Merci beaucoup à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.